Bonjour, bienvenue dans Regard Public. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la cohésion sociale et à trois de ses enjeux, le grand âge, la santé et la formation professionnelle des élus. Et nous allons en parler avec nos invités, Hervé Auban du groupe La Poste, Ségolène Bélanger de la Caisse des dépôts, Erwan Ledubi de l'association Happy et Vincent Antiefry de l'association La Vie Devant Soi.
Regard Public, les solutions du groupe Caisse des dépôts.
Un des enjeux des communes, notamment rurales, est de faire face au vieillissement de la population. Il pose beaucoup de questions. Comment permettre aux plus âgés de préserver leur autonomie, leur santé, leur vie sociale et d'habiter dans un logement adapté? Bonjour Hervé Auban.
Bonjour.
Vous êtes directeur de projet national de la direction santé et autonomie du groupe La Poste. Comment le groupe participe-t-il à la prévention et à l'autonomie des seniors?
Alors La Poste est une grande entreprise de services de proximité à taille humaine, notamment à travers ses facteurs, ses bureaux, ses points de contact physiques. Au sein du groupe, nous mettons en œuvre depuis plusieurs années des solutions pour répondre aux défis du vieillissement démographique au sein des territoires, en lien avec les collectivités, bien sûr, les municipalités, leurs centres communaux d'action sociale, les départements, mais aussi en collaboration avec les professionnels et les associations qui œuvrent sur ce champ de la prévention et du maintien à domicile des personnes âgées.
Et quelles sont les convictions qui vous animent?
Alors, sur ces champs de la prévention et du maintien à domicile, nous sommes guidés par trois convictions principales qui répondent à des enjeux forts. Nous sommes tout d'abord convaincus que le domicile a un rôle important à jouer dans la prévention et la santé de demain. Autrement dit, vivons heureux le plus longtemps possible à domicile. Et ce domicile devient un véritable enjeu de société, mais aussi un enjeu de politique publique. Il faut savoir en effet que 97% des plus de 65 ans souhaitent pouvoir vieillir chez elles et qu'une année d'espérance de vie gagnée chez soi représente une économie d'environ 1,5 milliard chaque année pour l'assurance maladie. Intervenir à domicile va permettre de retarder l'entrée en dépendance tout en représentant une alternative à l'entrée en établissement. La deuxième conviction, c'est qu'il est nécessaire de pouvoir développer un continuum de services, à la fois digitaux et humains, pour faciliter ce lien dont je parlais à l'instant entre les collectivités, les professionnels, les associations et les personnes âgées, pour améliorer la prise en charge, qu'elle soit sociale, médico-sociale ou sanitaire. Enfin, la troisième conviction, c'est que nous sommes guidés par un principe fort au sein du groupe La Poste, celui d'universalité, qui nous amène à aller vers toutes les populations, y compris les personnes âgées, isolées ou fragiles, et ce, dans tous les territoires. De par sa présence et sa connaissance intime des territoires, La Poste est, je crois, la promesse de pouvoir déployer des services pour tous et pour chacun.
Alors, vous évoquez les actions de La Poste en matière de prévention et de maintien de l'autonomie à domicile des personnes âgées. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets?
Oui, bien sûr. Vous connaissez bien entendu le facteur qui vient déposer votre journal, vos lettres et vos colis dans votre boîte aux lettres, mais votre facteur remplit de nouvelles missions, notamment au service des personnes âgées. Le facteur est déjà un véritable acteur de la prévention qui vient délivrer au domicile des populations âgées et fragiles des messages de sensibilisation, de prévention. Par exemple, dans le cadre de campagnes d'information en santé publique, lors des périodes caniculaires telles que celles que nous avons pu connaître cet été, ou à contrario lors de périodes grand froid, mais aussi des messages sur la vaccination ou lors de campagnes de dépistage sur le cancer par exemple. Toujours dans le cas de cette prévention, le facteur peut également intervenir à la demande de la collectivité pour questionner les personnes âgées afin de détecter leurs besoins particuliers et alerter en cas d'apparition des premiers signes de fragilité, la mémoire qui flanche ou une chute récente par exemple.
Le facteur, c'est aussi un acteur de lien social.
Oui, le facteur est aussi acteur, mais je dirais même plus qu'il est créateur de liens sociaux. Des visites de liens sociaux sont en effet réalisées depuis de nombreuses années par nos facteurs au domicile des personnes âgées. Mais nous allons aller plus loin, puisque certains facteurs spécifiquement formés en gérontologie, pour l'occasion, vont être très prochainement amenés à réaliser des visites de convivialité chez des personnes vivant seules, afin de permettre à ces dernières d'avoir de la visite, de pouvoir discuter, se promener, et même d'entraîner leur mémoire grâce à l'utilisation de jeux cognitifs. Et tout ceci vraiment grâce à la présence du facteur.
Ce qui veut dire que certains facteurs deviennent même des accompagnants.
Oui, c'est le terme, je crois que vous venez de le dire. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé sur la durée, qui va permettre de créer un lien privilégié avec les personnes âgées, d'assurer une coordination de premier niveau avec l'ensemble des acteurs présents dans l'écosystème proche de la personne, qu'il s'agisse de la famille, du médecin traitant, du CCAS, des services du département. Lors de cet accompagnement, nous proposons à ces personnes fragiles, et si la situation l'exige, de nombreux services comme la téléassistance, la tablette ardoise pour lutter contre la fracture numérique, le portage de repas, de biens culturels ou même le portage de médicaments. Et dans le cadre de leur mission, ces accompagnants sont également amenés à aider les personnes âgées dans leurs formalités administratives et peuvent même alerter en cas de nécessité d'adaptation de leur logement.
Merci, Hervé Aubon.
Merci.
Une autre question importante dans les communes rurales est celle du logement. Face à l'augmentation du nombre de personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap, le besoin de logements adaptés et choisis s'accroît. Fort de ce constat, le groupe Caisse des dépôts, la Fondation des Petits Frères des Pauvres et le réseau de l'habitat partagé et accompagné, APA, ont lancé il y a pile un an l'association HAPI. HAPI pour habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Erwan Ledubi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'association HAPI, co-président du réseau APA. Vous êtes en compagnie de Vincent Thieffry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, directeur de l'association La Vie Devant Soi. Alors, pourquoi est-ce que vous avez cofondé cette association HAPI, Erwan Ledubi?
Alors, le réseau APA est effectivement cofondateur de l'association HAPI, car nous sommes convaincus que l'habitat partagé et accompagné permet aux personnes en situation de fragilité de pouvoir choisir librement leur chez-soi dans un environnement familier, sur leur territoire, d'en être pleinement partie prenante. De nombreuses personnes souhaitent en effet des alternatives en milieu ordinaire aux propositions existantes qui peuvent trouver leurs limites ou ne pas forcément répondre à leurs besoins à chaque fois.
Quand on parle d'habitat inclusif, de quoi s'agit-il ?
Donc, il s'agit de lieux où les habitants disposent d'espaces privatifs et partagent des espaces communs, support de la vie sociale et partagée. Ce sont des projets à taille humaine qui s'inscrivent dans la vie de quartier ou de leur commune à proximité de commerce et de transport. En fonction de leurs besoins, les habitants souscrivent à des services d'accompagnement ou de soins à domicile. Les logements concernés peuvent appartenir aussi bien au parc privé qu'au parc social. Enfin, la participation des habitants, principaux décisionnaires, est primordiale au sein de ces projets. Donc, pour permettre le développement de tels projets de plus en plus nombreux, l'ensemble des territoires doit en accompagner l'émergence et la pérennisation. La CNSA dénombrait 578 habitats inclusifs en France en décembre 2021, et 433 de plus 6 mois plus tard en juin dernier. Et il ne s'agit là que des projets financés et donc déjà opérationnels, ou en tout cas proches de l'être. Mais la tendance est bien là. De plus en plus d'habitats partagés et accompagnés voient le jour pour répondre à tous ces besoins.
Alors la CNSA, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Concrètement, quel est l'objectif de l'association ?
Alors l'objectif de cette association est de fédérer l'ensemble des acteurs du secteur et d'accélérer le déploiement de projets d'habitat inclusif. Après quelques années d'existence, le réseau APA fédère déjà une centaine de projets, de porteurs de projets en tout cas, et génère des programmes d'entraide, d'accompagnement et met en place un plaidoyer en relation avec toutes ces parties prenantes. Dans ce cadre, nous remarquons que de grands chantiers sont encore à porter, mais sans forcément pouvoir le faire en interne. L'association HAPI permet de croiser le souci de l'inscription territoriale, les relations institutionnelles et les moyens de la Caisse des dépôts, les activités et la position de financeur des petits frères des pauvres, et enfin, l'approche terrain du réseau APA qui dispose de connaissances fines des problématiques des porteurs de projets sur le terrain.
Vincent Thieffry, pouvez-vous nous donner un exemple concret de projet ?
L'association de la vie devant soi agit sur le territoire du département du Nord en direction de personnes en situation de vulnérabilité au regard de l'âge, de la maladie ou handicap. Et dans ce contexte, l'association a souhaité développer des habitats intermédiaires de type habitat inclusif, notamment sur les communes de Lille et de Valenciennes. Ces deux habitats que je décris, en fait, permettent aujourd'hui d'accompagner une vingtaine de personnes. Et de nouveaux projets, effectivement, en devenir, à échéance de 2023, sur d'autres territoires, sur le Douaisis, sur les Flandres intérieures, notamment.
Donc, HAPI a lancé au premier semestre une plateforme, monhabitatinclusif.fr. Quels sont ses objectifs ?
Alors, c'est une plateforme destinée à faciliter et structurer le déploiement des projets. Elle poursuit 4 objectifs. Le premier, c'est qu'il s'agit d'un centre de ressources où on peut y trouver des retours d'expérience, des fiches outils ou encore des témoignages. Le deuxième consiste à sensibiliser et accompagner les territoires pour mettre en place une politique sociale au plus proche des territoires. Le troisième objectif est d'orienter les porteurs de projets vers des partenaires à même de les financer ou bien de les accompagner pour fluidifier le montage. Et enfin, dernier objectif, mettre en place une démarche et des outils d'évaluation de ces projets pour permettre d'en analyser leur impact.
Alors, vous avez justement reçu vos premières candidatures de porteurs de projets.
Exactement. 110 projets ont été déposés cette année sur un objectif de 100 projets la première année. Cela représente 54 départements. 45 se situent dans ce qu'on appelle des petites villes de demain. Donc, ils ont tous eu un retour listant l'ensemble des financeurs potentiels et les structures accompagnantes susceptibles d'intervenir. Ils sont maintenant invités à nous faire remonter les suites qui auront été données à leurs projets.
Alors, Vincent Thieffry, vous avez déposé des projets. Dans quel but ?
Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'association L'Évidence-Soi, dans le cadre du montage et du développement de nos habitats inclusifs, la recherche en fait de subventions prend énormément de temps, notamment pour recueillir des subventions qui vont pouvoir nous permettre d'accompagner toute la période d'ingénierie de projet, mais aussi rechercher des fonds pour l'investissement, et je pense notamment sur les sujets liés au bâti de ces habitats inclusifs. Le fait de pouvoir faire appel effectivement à la plateforme API nous permet de pouvoir faciliter cette démarche de recherche de subventions. Comme l'a indiqué Erwan Ledubi à l'instant, on a eu la possibilité au cours de l'été 2022 de pouvoir déposer des dossiers très concrets. Et depuis, nous avons eu donc des retours de propositions de la plateforme, ce qui nous a permis de nous mettre en contact direct avec des fondations dans l'optique effectivement d'obtenir des financements complémentaires.
Donc c'est vraiment très pratique pour vous.
Ah, tout à fait, c'est très appréciable parce que ça vient conforter et renforcer le travail qui est réalisé par l'association en matière de recherche de subventions. J'en veux dire qu'on gagne du temps et qui permet de pouvoir faire avancer beaucoup plus vite nos projets.
Merci messieurs.
Merci à vous.
Nous avons vu à travers les projets présentés que les domaines d'action des élus sont larges et ils peuvent faire appel à de nombreuses compétences en matière d'action sociale, droit des collectivités, finances et budget, urbanisme, RSE, etc. Et pour aborder le plus efficacement possible tous les dossiers, la question de la formation des élus est primordiale. D'où le lancement, il y a un an, de Mon Compte Élu qui reprend le dispositif DIF Élu. Bonjour, Ségolène Bélanger.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet de cette plateforme à la Caisse des dépôts. Que propose-t-elle précisément ?
Alors, Mon Compte Élu a été créé il y a en effet un an et il est géré par la Caisse des dépôts pour le compte du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Mon Compte Élu, c'est une plateforme qui est adossée à la plateforme Mon Compte Formation. Mais elle a été conçue vraiment spécifiquement pour les élus, avec un parcours qui leur est dédié pour prendre en compte au mieux leurs besoins. Mon Compte Élu offre les mêmes fonctionnalités et facilités que Mon Compte Formation. Ça veut dire que l'élu peut consulter ses droits, mais aussi chercher une formation et évidemment s'inscrire en formation puisque c'est l'intérêt de la plateforme. Grâce au DIF Élu, les élus peuvent soit se former sur des formations qui sont liées à l'exercice de leur mandat, donc avec des thématiques spécifiques, soit des formations liées à leur réinsertion professionnelle à l'issue de leur mandat.
C'est en ligne, donc c'est vraiment très pratique.
Oui, ça a plusieurs avantages, Mon Compte Élu. D'abord, ça nous a permis de réduire les délais d'instruction des dossiers, puisque sur l'ancien dispositif, on était sur des délais moyens de 2 mois à peu près, alors qu'aujourd'hui, grâce à la plateforme, l'élu peut partir en formation en moins de 11 jours.
C'est rapide, effectivement.
C'est très rapide. Ça lui permet à la fois de s'inscrire, de valider son dossier et de partir en formation. Le second intérêt, c'est que ça lui permet d'accéder à un catalogue complètement transparent et donc de pouvoir comparer les offres de formation et trouver celle qui correspond le mieux à son besoin. Et enfin, le dernier intérêt, c'est que grâce à la plateforme, pour des formations liées à sa réinsertion professionnelle, ça lui permet de mobiliser à la fois ses droits élus et ses droits CPF qu'il aurait pu acquérir dans le cadre de son activité professionnelle.
Peut-on dresser un premier bilan ?
Le premier bilan est très positif. Les élus se sont vraiment emparés du dispositif. On est à environ 12 000 dossiers de formation. C'est très positif et surtout, on voit que c'est en phase avec les prévisions de fin d'année qui étaient à peu près à 18 000 dossiers. Ce qui correspond à peu près à ce qu'on avait vu en 2020, qui était considéré comme une année exceptionnelle. Donc les élus sont vraiment au rendez-vous. On a sur le catalogue 55 thématiques qui sont proposées, 55 thématiques de formation et 51 formations qui sont présentes. Donc en tout, à ce jour, plus de 7000 élus sont déjà partis en formation.
Avez-vous rencontré des difficultés lors de la mise en place du service ?
Alors oui, on a rencontré une première difficulté qui est liée au fait que les élus, notamment les élus femmes, se déclarent auprès des préfectures en tant qu'élus sous leur nom usuel, leur nom marital, bien souvent. Ce qui nous pose des difficultés de rapprochement avec les données que nous avons dans notre système d'information qui sont liées uniquement au nom de naissance. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de contacter la Caisse des dépôts avec les justificatifs nécessaires et un gestionnaire pourra prendre en charge la demande dans un délai très court. Une seconde difficulté qui est liée aujourd'hui à la sécurisation de la plateforme. Vous en avez entendu parler sûrement sur Mon Compte Formation. Il y a eu des difficultés liées notamment à la lutte contre la fraude qui ont nécessité la mise en place d'un dispositif qui s'appelle France Connect Plus. France Connect Plus, c'est la mise en place d'une identité numérique indispensable pour la connexion des utilisateurs. Mon Compte Élu va bénéficier de cette sécurisation et de cette lutte contre la fraude qui a été développée sur la plateforme Mon Compte Formation. J'invite donc tous les élus à acquérir leur identité numérique au plus vite pour qu'ils puissent ensuite faire leur démarche et s'inscrire en formation.
Merci Ségolène Bélanger.
Merci à vous.
C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour écouter les autres podcasts Regard Public, rendez-vous sur le site du groupe Caisse des dépôts et sur celui de RNC. À bientôt.